10 minutes chronique, une émission de Viva Culture par Catherine Desormières. Deuxième volet, consacré au premier roman de Truman Capote. Aujourd'hui, les domaines hantés, dont le titre en anglais est Other Voices, Other Rooms, paru en 1948 aux États-Unis, puis en 1949 dans sa traduction française aux éditions Gallimard dans la collection L'Imaginaire. Dans les années 30, un jeune garçon vient de perdre sa mère. Il est recueilli dans le foyer de sa tante Hélène. Malgré l'attention bienveillante dont Joël est entouré, il est malheureux. Le jour de ses 13 ans, un courrier arrive, signé du père qu'il n'a jamais connu, qui envoie de l'argent et une adresse. Au landing, nous pourrons offrir à mon fils une belle maison, une nourriture saine et une atmosphère cultivée. Signé Edward Sansom. Après un voyage mouvementé, le garçon arrive à Noon City, dans le Mississippi, et rejoint la maison de son père, le Landing, un manoir légendaire et délabré sur une ancienne plantation d'esclaves. Ses habitants vivent à l'écart du monde, au milieu de bibelots poussiéreux et de lourds souvenirs. Joël est accueilli par la seconde épouse de son père, Amy, petite femme sèche, indiscernable. Elle avait quelque chose de flou dans le visage, comme si, sous le déplaisant vernis d'un sot raffinement, une autre personne, tout à fait différente, cherchait à se faire remarquer. Puis Joël fait connaissance avec Missouri, la jeune domestique noire, la seule personne avec qui il établira une relation franche, qui lui fait partager ses rêves d'évasion vers la grande ville, Washington. Grande, puissante, pieds nus, gracieuse, Missouri Fever ressemblait à un souple chat noir. Il rencontrera Idabelle, une fille de son âge qui habite dans le voisinage, qui s'habille en garçon, jure comme un charretier et accordera finalement à Joël son amitié bourrue. Et enfin, il y a Randolph, efféminé et vaporeux, corpulent, mais au visage étrangement juvénile, qui se déplace en pyjama et kimono dans un léger nuage de parfum citronné. Randolph se pencha en avant. « Quel charmant enfant que ce petit Joël !»« Cher Joël, murmura-t-il, tâche d'être heureux ici. Tâche de m'aimer un peu, veux-tu ?» Joël avait l'habitude des compliments et il en imaginait dans sa tête, mais il éprouvait un certain malaise à se les entendre décocher ainsi à bout portant. Était-ce pour se moquer de lui? Pour le taquiner? Il interrogea les yeux ronds, innocents, et il vit son propre visage d'enfant reflété dans un double objectif. Le cousin d'Amy était sérieux. Il baissa les yeux vers la bague d'opale, touché et honteux d'avoir eu la vilaine pensée de vouloir enfoncer ses ongles dans la main de Randolph. Oh, « Je vous aime déjà, » dit-il. Randolph sourit et lui pressa la main. Le père de Joël est mystérieusement absent, et malgré les questions insistantes du garçon, personne ne lui répond, laissant planer un silence inquiétant. Depuis son arrivée au manoir, Joël est en proie à des interrogations sur l'énigme que représente à la fois la présence de ceux qui l'entourent et l'absence de ceux dont il ne parvient pas à se représenter la figure. Le seul qui compense cet abandon est Randolph, l'homosexuel flamboyant. Il sourit d'un air triste et goûta le Xérès. Puis de la pochette de son pyjama de soie caramel, il sortit une cigarette et alluma une allumette. La cigarette avait une étrange odeur médicinale, comme si le tabac avait trempé pendant longtemps dans le jus d'herbes acides. C'était l'odeur qui trahit les maisons où vivent les asthmatiques. Comme il plissait les lèvres pour lancer un anneau de fumée, le dessin de sa face poudrée se compléta soudain. Elle semblait n'être composée que de cercles. Sans être grasse, elle était ronde, comme une pièce de monnaie, lisse, imberbe. Deux disques roses grossièrement appliqués lui coloraient les joues, et son nez semblait brisé, comme si un jour un poing vigoureux et furieux l'avait frappé. Ses cheveux bouclés, très blonds, lui retombaient puérilement sur le front en frisette dorée, et ses yeux féminins, très écartés, ressemblaient à des billes bleu ciel. Randolph, personnage à la fois fascinant et indéchiffrable, se costume en femme dans le secret de sa chambre. Il porte des perruques bouclées, extravagantes. Or, c'est lui qui recueille Joël auprès de lui, avec une attention affectueuse, dont l'enfant ressent l'ambiguïté sans la comprendre, étonné et heureux d'en être l'objet. Joël, ce garçon au physique délicat, est décrit par son auteur comme un enfant sensible, imaginatif, rêveur et perdu. Perdu dans la vie, abandonné, à la recherche de protection et d'amour, qui n'a aucune idée dans son innocence de ce que signifie une attirance amoureuse, ni de ce qui souterrainement le trouble. Il se rapproche davantage de Randolph, quand finalement il découvre son père avec déception et dégoût, un être diminué qui ne peut être celui qu'il avait rêvé et attendu. « Il voudrait de l'eau, » dit Randolph, « il faut que tu le fasses boire. » Pauvre Eddie, il ne peut plus faire un mouvement. Et Joël dit, « Mais est-ce que c'est lui ?»« Mr. Sansom, » dit Amy, « c'est Mr. Sansom. » La dernière partie du récit ressemble à un parcours initiatique. Quand Joël et Idabel décident de partir ensemble à la conquête de leur liberté, ils n'iront pas plus loin qu'à la fête foraine de Noon City, à quelques kilomètres du landing. Chemin faisant, ils découvrent un couple dans les buissons. S'en détournant, ils reprennent la route. Arrivés en ville, au milieu d'une foule en fête et des attractions, ils rencontrent une femme minuscule, Miss Wisteria, qui se produit dans une baraque de foire. Joël ne sait trop comment réagir quand elle tente une manœuvre de séduction. Pourtant, il sait, dit-il, que ce qu'elle voulait, il ne pouvait pas le lui donner. Il s'enfuit sous la pluie battante. Il pense avoir aperçu Randolph. Il recherche Idabel qui a disparu dans la foule. « Attendez, » demanda Miss Wisteria en se drapant dans ses vêtements trempés. « Attendez-moi !» Mais Joël d'un bond la dépassa et courut d'un abri dans un autre. Idabel n'était pas dans la baraque à 6 cents. Il échoua sous la véranda de la vieille maison. « Idabel, tu es ici ? Tu es ici ?» Une explosion de silence lui répondit. Ici, là, quelques rumeurs en marge, pluie comme des ailes dans la cheminée, pattes de souris sur du verre brisé, pas délicat de celles qui ne cessent de monter et descendre les escaliers, et le vent qui ouvre les portes, qui les ferme, le vent qui parle tristement au plafond, qui lui souffle au visage son haleine aigre et mouillée, qui lui vide les poumons dans la chambre. C'est la pluie qui a eu raison de Joël. Trempé, affolé, réfugié dans une maison vide. Un délire s'est installé dans sa tête qui l'entraîne du vacarme de la fête jusqu'au silence, jusqu'à son lit, en proie à une fièvre comateuse dont il émerge, veillé par Randolph qui l'avait suivi jusqu'à la fête et le soigne. Il ne savait pas quand Randolph dormait. Il semblait ne quitter le fauteuil à bascule qu'aux heures où Joël devait manger ou satisfaire quelques besoins. Et parfois, s'éveillant alors que la lune risquait par la fenêtre un œil de bandit, il voyait la cigarette de Randolph palpiter encore dans la nuit. Malgré l'effondrement de la maison, il n'était pas seul. Un autre avait survécu. Ce n'était pas un étranger, mais quelqu'un de bon, de meilleur que tous ceux qu'il avait connus. L'ami, tout proche de l'amour. « Randolph, dit-il, avez-vous jamais été aussi jeune que moi ?» Et Randolph dit, « Je n'ai jamais été aussi vieux. » Guéri de sa pneumonie, c'est avec Randolph que Joël se rend à l'ancien hôtel en ruine où vit un vieil ermite qui a demandé à les voir. Le lendemain, après une nuit fantomatique, ils rentrent à pied au landing. C'est le dernier passage à franchir pour l'enfant. Le matin était comme une ardoise essuyée, prête pour n'importe quel futur. Tout semblait fini, changé en un oiseau envolé vers l'arbre de l'étang. Une joie folle inonda Joël. Il se mit à courir. Il zigzaguait, chantait Il était amoureux, il saisit une petite grenouille parce qu'il l'aimait, et parce qu'il l'aimait, il lui rendit la liberté. « Ouh, regardez, Randolph, dit-il, en s'entourant la tête d'un turban de mousse, regardez, qui suis-je ?» Mais Randolph ne s'occupait pas de lui. La bouche tordue d'un étrange rictus, il semblait arpenter le pont d'un navire par gros temps. Il piquait du nez, roulait de tribord à bâbord, et ses yeux injectés de sang étaient une mauvaise boussole, car il semblait ne pas savoir dans quelle direction il allait. « Je suis moi !» s'écria Joël. « Je suis Joël ! Nous sommes la même personne !» Joël, voyant Randolph titubé sur la route, après cette nuit d'illusions et de beuverie, est brusquement délivré. Désormais, Joël sait qui il est, mais il refuse de devenir cette drag queen recluse et honteuse. « Nous sommes les mêmes personnes, » a-t-il dit à Randolph. « Les mêmes, et pourtant, ils seront différents, parce que Joël assumera qui il est. Le trouble s'efface. Il peut commencer sa vie. » Other Voices, Other Rooms a connu une notoriété immédiate pour son style raffiné, pour l'évocation poétique d'une conscience naissante de ce qu'on n'appelait pas encore en France le queer. Ce succès dans les années 50 a été doublé d'un parfum de scandale aux États-Unis à cause de la photo de couverture du livre, un portrait de Truman Capote lui-même, vu comme une image provocante et suggestive par ses détracteurs. Il y eut à la sortie du roman en France en 1949 un article dans le journal Le Monde qui évita toute allusion au véritable sujet des domaines hantés, sauf peut-être grâce à des allusions cryptées comme « À quel point tout cela nous éloigne du Grand Mône, le chef-d'œuvre d'Alain Fournier ? Est-il nécessaire de le dire ?» Ou bien encore, en conclusion, la question qui se pose maintenant est celle-ci. Monsieur Truman Capote fera-t-il école ? Représente-t-il autre chose qu'un goût et une disposition personnelle ? Plus de 70 ans d'histoire et de littérature répond à la question. Retrouvons-nous le 25 mars dans Viva Culture et en podcast 10 minutes chroniques sur Westrack Radio. Oh, baby, let me be your soldier dog. I wanna be your man. Oh, baby, I wanna be your soldier dog. Come back, man, give me a quarter. Baby, let me be your soldier dog. Oh, baby, let me be your soldier dog.